grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Comment le site Amazon a changé notre vie quotidienne? Comment le petit libraire en ligne de Seattle est-il devenu en 25 ans un géant mondial qui influence nos manières de consommer et nos modes de vie? Comment Amazon s'est-il emparé de nos données personnelles? Pourquoi son fondateur Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, investit-il massivement dans l'intelligence artificielle et dans la conquête spatiale? Comment la machine à vendre américaine fait-elle main basse sur notre avenir? Quelle est sa vision du monde? Nous verrons également quelles sont ses méthodes de management et les conditions de travail dans ses entrepôts. Coup de projecteur ce matin sur l'un des 5 cavaliers des fameux GAFAM. C'est Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft qui façonnent nos vies à grande vitesse, qu'on le veuille ou non. Pour nous éclairer ce matin, le journaliste d'investigation Benoît Berthelot qui signe une solide enquête sur Amazon et Vincent Maillet qui publie également un livre sur le géant américain. Avez-vous peur d'Amazon? C'est la question que je vous pose ce matin. De quelle manière Amazon a transformé votre vie quotidienne? Évitez-vous d'avoir recours à ses services? Intervenez au 01 45 24 7000 sur le site et l'appli France Inter. Tout à l'heure, vous retrouverez la chronique Pas son genre de Julia Foyce qui s'intéresse à la phobie de l'anatomie féminine. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rebi.
Comment Amazon a changé notre vie quotidienne? Pour répondre à cette question, deux invités. Bonjour Benoît Berthelot.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au magazine Capital et vous publiez au Cherche Midi une solide enquête, Le Monde selon Amazon, en quatrième de couverture, enquête dans les coulisses de la machine à vendre, entre guillemets. Vous avez enquêté pendant 3 ans sur une entreprise qui entretient le culte du secret. Hein.
Oui, c'est une des entreprises les plus opaques au monde. Elle est d'accord pour communiquer quand elle le veut bien, sur des sujets très précis qui lui sont évidemment favorables, mais sur tous les sujets qui sont le fonctionnement en fait interne de cette machine à vendre, les rouages cachés, tout ce qui se passe derrière l'écran, les rouages de ce supermarché par ordinateur, là-dessus elle ne communique absolument pas. Donc j'ai rencontré 150 salariés d'Amazon et des ex-salariés, que ce soit des proches de Jeff Bezos jusqu'aux gens qui travaillent dans les entrepôts, des ingénieurs, et tous ces gens qui façonnent les brevets d'Amazon, les algorithmes cachés, et c'est tout ça que je détaille dans le livre. C'est ce qu'Amazon ne nous dit pas.
Au terme de cette enquête, est-ce que vous avez peur d'Amazon ?
Alors moi, très personnellement, j'étais un consommateur compulsif il y a 5 ans de ça. J'achetais même les croquettes de mon chat sur Amazon, etc. Et effectivement, l'enquête m'a amené à me poser des questions sur ma propre consommation et sur ce modèle. Aujourd'hui, j'achète dessus uniquement pour tester des produits pour mes articles. Mais c'est vrai qu'à titre personnel, maintenant, j'évite parce qu'il y a beaucoup de réserves à avoir et les salariés d'Amazon sont les premiers à en avoir sur en fait tous les impacts de cette formidable machine. C'est quelque chose qu'Amazon ne prend pas en compte aujourd'hui ou très très peu, l'impact social, environnemental, l'impact de son comportement fiscal, etc. C'est des sujets qui sont comme oubliés et comme Jeff Bezos, son fondateur, ne voit pas. Et c'est ça, évidemment, les plus gros points de critique sur Amazon aujourd'hui.
Bonjour Vincent Maillet.
Bonjour.
Vous êtes directeur général et fondateur d'Ash Commerce, Havas Commerce, une filiale du groupe Havas. Vous publiez Amazon, main basse sur le futur. Main basse sur le futur?
Ah oui. En fait, Jeff Bezos a fait 3 choses. Il a trois qualités absolument impressionnantes. C'est une vision à très très long terme, puisqu'en fait, il se projette minimum à 20-30 ans. C'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il met en pratique et il innove, c'est-à-dire qu'il crée les brevets, il dépose les brevets du futur qu'il a imaginé. Et puis le dernier point, c'est qu'il a une exigence opérationnelle. C'est pour ça qu'il est assez décrié d'ailleurs. Il y a une espèce d'exigence opérationnelle, un process Amazon qui font que voilà, c'est les 3 ingrédients qui font le succès d'Amazon. Et mon sujet en fait, et le livre, c'est d'expliquer aux entreprises, aux salariés, à tous les gens qui essaient de comprendre Amazon, en fait, le projet qu'il y a derrière tous ces brevets.
Alors, contrairement au livre de Benoît Berthelot, il ne s'agit pas d'une enquête sur le terrain. Petite précision sur un éventuel conflit d'intérêts. Est-ce qu'Amazon est un client de l'agence Havas?
Pas de Havas Commerce.
D'accord. Et d'Havas?
D'Havas, il y a sans doute des missions qui ont été faites pour Amazon, mais en ce qui me concerne, je ne m'occupe pas du tout de...
D'accord. En tout cas, il y a une préface de Yannick Bolloré, le PDG du groupe Havas.
Et Havas est l'agence de communication historique d'Amazon en France.
Il faut dire historique, non.
Si, ça fait des années que Havas fait la communication stratégique d'Amazon.
Non, ça fait pas des années, mais bon, c'est pas...
Benoît Berthelot, pouvez-vous nous présenter Amazon, cette machine à tout vendre, tout le temps? C'est la plus forte capitalisation boursière à plus de 900 milliards de dollars. Amazon qui emploie 650 000 personnes à travers le monde. Et son fondateur, Jeff Bezos, est devenu l'homme le plus riche du monde, selon le magazine Forbes.
Oui, il a commencé, en fait, dès 1994... À se mettre sur ce terrain qui était le web. À l'époque, il n'y avait que quelques centaines de sites web existants. Il a fait ce pari, il a choisi le livre comme premier objet de vente parce que c'est un objet standard qui est facile à envoyer par la poste. Les gens n'ont pas besoin de le voir pour savoir ce qu'il y a dans le livre. Vous lisez la quatrième de couverture et vous pouvez l'acheter à distance. Donc il a identifié cet objet comme le plus facile à vendre au début et il s'est vite rendu compte qu'en fait, les gens étaient prêts à acheter tout et n'importe quoi sur Amazon. Des lave-vitres, des pièces auto, à manger évidemment. Et aujourd'hui, Amazon est dans l'alimentaire, dans tout ce qui peut se vendre.
Alors la légende Amazon raconte que tout a commencé dans un modeste pavillon à Seattle. Pourquoi Seattle ?
Parce que il y avait un régime fiscal intéressant. Comme c'est un état peu peuplé, les impôts étaient plus réduits qu'en Californie. Que dans la Silicon Valley. Ensuite, il y avait un gros dépôt de livres qui était assez proche de Seattle aussi et qui rendait la logistique facile au début. Et puis, c'est une ville aussi, donc au nord de la côte ouest des États-Unis, qui abrite Boeing, qui abrite Microsoft. Donc, il y avait un bassin d'ingénieurs sur place. Et c'est ça aussi qui était intéressant pour commencer.
Alors, la véritable passion de Jeff Bezos, c'est pas les livres, c'est l'espace. C'est un fan absolu de la série Star Trek, Vincent Maillet.
Oui.
Il a d'ailleurs fondé Blue Origin, et à ses yeux, c'est son affaire la plus importante, la conquête spatiale à venir. Son idée, c'est d'envoyer des centaines de millions d'humains un jour dans l'espace, dans les décennies qui viennent.
Donc c'est un fan de Star Trek absolu. Il a un grand-père d'ailleurs qui travaillait, qui adorait aussi la conquête spatiale. Donc dans la famille, tout le monde est de près ou de loin intéressé ou impliqué dans la conquête spatiale. Et puis il a prophétisé, il a créé un courrier à la NASA, il a prophétisé qu'en fait on serait assez rapidement obligé sur la Terre d'aller délocaliser les industries les plus polluantes et les plus gourmandes en matières premières en fait sur la Lune. Donc Jeff Bezos voit quelque part la conquête spatiale comme un espèce d'espace d'entrepreneuriat total dans lequel il pourra poser et imaginer tout ce qu'il a inventé pour créer des villages lunaires.
Et sur la couverture de votre livre, Vincent Maillet, on voit des fusées, des ballons dirigeables.
Oui. Il y a des dépôts de brevets très sérieux d'Amazon où vous voyez un énorme dirigeable entrepôt qui peut être à 5-6 kilomètres au-dessus d'une ville, par exemple. On peut imaginer que demain Amazon, s'ils en ont l'autorisation, mettre un énorme ballon dirigeable au sud, un énorme ballon dirigeable au nord. Et puis des drones qui font l'aller-retour entre l'entrepôt et la ville.
Alors Benoît Berthelot, on connaît Blue Origin, qui est une vitrine du futur, mais le grand public ne connaît pas AWS, Amazon Web Service, qui est une source de revenus considérable et méconnue d'Amazon. C'est quoi AWS, Amazon Web Service ?
Ce sont des serveurs, c'est le principe du cloud, qu'on connaît quand même bien aujourd'hui.
Nuage numérique.
Voilà, accéder à des serveurs à distance pour faire tourner des sites web, des applications, stocker des fichiers. Amazon s'est rendu compte très tôt qu'ils avaient besoin de beaucoup de serveurs pour faire tourner leur site pendant les pics de commandes de Noël, etc. Et Jeff Bezos, comme à chaque fois, se dit comment on peut en faire du business. Il a mutualisé ses serveurs à toutes les entreprises qui voulaient les utiliser. Et aujourd'hui, on a, rien que pour la France, des clients comme Renault, la SNCF, Netflix, la Société Générale, Airbus. Tous ces gens-là achètent le cloud d'Amazon. Et c'est aujourd'hui la filiale qui rapporte le plus à l'entreprise, 7,3 milliards de dollars de cash l'an dernier. C'est plus que le e-commerce, en fait, qui est une activité à faible marge. C'est une activité qui est optimisée fiscalement pour ce qui est de l'Europe au Luxembourg. Et ça rapporte énormément à Amazon aujourd'hui. C'est ça qui permet de subventionner le reste de ses activités.
Vincent Maillet.
Oui, tout à fait. Alors, le cloud, il est, a priori, il serait venu au cloud parce que c'est un métier qui est assez proche, finalement, de la logistique. C'est un métier où vous stockez des données et il faut les rendre accessibles et pouvoir les livrer si votre client a besoin de données. Ce qui est très vrai, c'est qu'aujourd'hui, c'est la machine à cash. C'est-à-dire qu'en gros, le modèle Amazon, tel qu'il est fait aujourd'hui, on peut dire qu'il est au milieu du chemin. C'est-à-dire que, Amazon Web Service est vraiment la pompe à fric, finalement, d'Amazon, mais que le modèle retail,
C'est quoi retail?
pardon.
Retail.
De la distribution, pardon. Le modèle de distribution d'Amazon, désolé pour mon jargon. Le modèle de distribution d'Amazon, en fait, est aujourd'hui toujours en construction, puisque, en gros, ce qu'on voit dans les dépôts de brevets, par exemple, c'est que, on parle d'humains et d'ambiance dans les dépôts. La question, c'est est-ce qu'il y aura encore des gens dans 5 ou 10 ans les entrepôts, puisque le sujet, c'est d'automatiser au maximum les process.
On posera la question tout à l'heure, parce que je pense que pour Jeff Bezos, l'employé modèle dans les entrepôts, c'est un robot.
Effectivement, oui. Et les gens dans les entrepôts se plaignent d'être pris pour des robots. Et en fait, ils ont raison. C'est le but final.
Quel type de problème, revenons un petit peu sur Amazon Web Service, quel type de problème pose AWS
Déjà, sa suprématie, c'est un acteur qui a 35% du web mondial qui passe sur ses serveurs.
Et concernant nos données personnelles,
pour nous Français, il y a une chose qui est importante, c'est le Cloud Act, qui est une loi votée par Donald Trump, qui permet à tous les acteurs technologiques américains, ou plutôt aux services de renseignement américains, de demander à n'importe quel acteur technologique de lui donner des données, c'est le cas de le dire, s'ils ont une enquête en cours. Sur, ça peut être du terrorisme ou toute menace sur le bien public américain. Donc même si Amazon a ses serveurs en France, héberge nos données, comme c'est une entreprise américaine, les Américains peuvent tout à fait demander, et ils le font, d'accéder à nos données. Donc toutes ces entreprises françaises qui sont partenaires, elles s'exposent à ça. Et j'ajouterai un deuxième point, c'est qu'Amazon essaie de plus en plus d'aller vers les services publics. On l'a vu déjà avec des groupes parapublics, la SNCF, l'éducation nationale. Il y a des notes des élèves de CE1, de seconde qui se retrouvent sur les serveurs d'Amazon, par exemple, via un prestataire. Amazon essaie d'aller vers les services publics parce qu'évidemment, c'est des marchés énormes. La santé, on imagine bien. Ils ont déjà réussi, par exemple en Angleterre, avec le ministère de la Justice qui est dessus. La CIA aux États-Unis. Donc on voit que c'est pour eux aussi un cheval de Troie pour étendre leur emprise.
Petite question anecdotique, on retrouve vos livres sur Amazon, Benoît Berthelot, votre livre assez critique sur Amazon.
Bien sûr.
On peut l'acheter sur Amazon.
Bien sûr, on peut. En fait, ce serait du refus de vente. C'est pas possible qu'il n'y soit pas. Après, c'est comme ça. C'est la machine Amazon qui intègre, y compris les critiques, et qui en fait du commerce. C'est assez ironique.
Et vous, Vincent Maillet, votre livre est un peu moins critique?
Pareil, mais il est sur Amazon aussi.
Évidemment. Allez, avez-vous peur d'Amazon? Un peu, beaucoup, passionnément, utilisez-vous ces services ou alors refusez-vous d'acheter sur ce site? Utilisez-vous l'assistant vocal d'Amazon, Alexa, l'enceinte connectée, 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter, et la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Claire Destacan, Clara Mario et Julia Macarez m'ont aidé à préparer cette émission, et c'est réalisé par Stéphanie Texier, et on écoute un titre de 1980. Cette année-là naissait Kim Kardashian, et disparaissait John Lennon. Belle journée à l'écoute de France Inter.
Elle était maquillée comme une star de ciné, accoutée au jukebox en mouvement. Elle rêvait qu'elle posait juste pour un bout d'essai à la Century Fox. Oh oh, elle semblait bien dans sa peau, ses yeux couleur mentalo, cherchait du regard un spot, le dieu projecteur.
Et moi je n'en pouvais plus, bien sûr, elle ne m'a pas vu, perdu dans sa mégalo, moi j'étais de trop.
Elle marchait comme un qui méprise sa poire en frôlant le flipper. Ah, la chanson qui couvre tous les mots qu'elle mimait semblait briser son cœur.
Thank you.
fait entrer et le charme est tombé, arrêtant le flipper. Oh, oh, oh. Ses yeux noirs ont lancé de l'agressivité sur le pauvre jukebox. Oh, oh, la fille aux yeux monte à l'eau, a rangé sa mécalo
et s'est soumise aux yeux noirs,
couleur de trottoir.
Et moi je n'en pouvais plus,
elle n'en a jamais rien su,
ma plus jolie des mythos.
Eddie Mitchell et Juliette Armanet interprétaient Couleur Mentalo. Julia Foy, vous êtes arrivée dans le studio. On pourrait faire un duo et chanter.
Mais bien sûr.
Qu'est-ce qu'on pourrait chanter ensemble,
tiens? Mais les yeux Mentalo, ça me va bien, moi.
C'est pas les yeux, hein. C'est Couleur Mentalo. Si.
Ou bah, vous croyez qu'il parle de quoi?
Ouais.
D'autre chose.
On y va? Merci.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
10h23, comment Amazon transforme notre vie quotidienne? C'est notre thème ce matin. Avez-vous peur d'Amazon? Un peu, beaucoup, pas du tout? Passionnément. 01 45 24 7000.
Bonjour, c'est Amazon.
Le sourire sur les colis, c'est nous.
Merci beaucoup.
Nous sommes Amazon. Nous sommes les réinventeurs de votre quotidien.
Une fois que vous avez passé votre commande, celle-ci est généralement traitée en moins de 15 minutes. C'est comme ça que ça se passe pour des centaines de millions d'articles dans des centaines de bâtiments à travers le monde.
Je me souviens du garage où il travaillait. À chaque fois qu'une vente se faisait, une cloche sonnait. Et la cloche sonnait sans arrêt.
Pour les investisseurs, tout ce qui compte, c'est la croissance. Elle devient l'obsession de Jeff Bezos.
Avec une fortune estimée à 124 milliards de dollars, le fondateur d'Amazon est désormais l'homme le plus riche du monde et son groupe emploie environ 200 000 personnes aux États-Unis.
Les gens qui y travaillent n'ont pas de visage. Ils sont sous-payés. La seule chose qu'ils peuvent dire, c'est qu'ils ont un emploi, c'est tout.
Et puis, il y a les tablettes, les téléphones, les films et les séries, et même les navettes spatiales.
This is Blue Moon.
Tout marché est bon à prendre.
Amazon.
Montage signé Stéphanie Texier. Qui est Jeff Bezos? Il est né le 12 janvier 1964 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. De son vrai nom, Jeffrey Preston Jorgensen. Benoît Berthelot, vous publiez une enquête sur Amazon, Le Monde selon Amazon. Qui est-il?
Effectivement, c'était pas son vrai nom, Bezos, au départ. C'est le nom de son père, on peut dire, adoptif.
Un immigré cubain.
Cubain, absolument, oui. En fait, sa mère a été enceinte à 17 ans. Elle a très vite quitté le père biologique, Ted Jorgensen, qui était un artiste de cirque, un peu farfelu, etc., qui avait pas les moyens de l'élever.
Il ne l'a jamais revu, d'ailleurs.
Il ne l'a jamais revu, et c'est assez cruel comme histoire, puisqu'il a le père en question, le père biologique, n'a appris que dans les années 2010 qu'il était le père, en fait, de l'homme le plus riche du monde. Il n'avait aucune idée de qui était Jeff Bezos. Il lui a, à partir de là, écrit pour essayer de le voir. Jeff Bezos a choisi de ne pas le revoir. Et lui, Jeff Bezos, il dit qu'il a eu une enfance très heureuse et il accepte très bien cette condition de fils adoptif et de toute cette famille qu'il a eue, notamment son grand-père du côté Bezos. Il dit qu'il a gagné la loterie de la vie avec cette famille-là et un peu comme Steve Jobs, évidemment, ça rappelle d'autres profils d'entrepreneurs qui ont été adoptés.
Oui, il y a des analogies. Vincent Meillet, vous publiez Amazon d'un bas sur le futur. Il y a des analogies entre le fondateur d'Apple et Jeff Bezos.
Tout à fait. Les deux, finalement, ont eu une espèce de revanche à prendre sur la vie et une forme de reconnaissance de la figure paternelle.
Alors, de pas, résilience.
Oui, exactement. Donc, je suis pas psychologue, mais c'est vrai que les deux ont quand même bâti des empires qui sont absolument colossaux avec des personnalités qui sont extrêmement fortes.
Quelle est sa personnalité d'ailleurs? Personnalité très contrastée, hein, Benoît Berthelot. C'est un visionnaire de génie ou un inquiétant prédateur?
C'est les deux, c'est-à-dire Au départ, évidemment, l'idée qu'il a eue et surtout la volonté qu'il a mise dans son entreprise, Amazon, est hors du commun. Il a aussi fait des choix stratégiques à chaque fois qu'il a dû en faire. Il les a fait très rapidement et il n'a pas eu peur. Certainement, c'est un visionnaire, ça, on peut pas le nier. Après, il a une tellement forte personnalité, une tellement forte exigence vis-à-vis de lui-même, qu'il attend à ce que tous les autres soient exactement comme lui. C'est-à-dire que le manager idéal pour Jeff Bezos, c'est lui-même. Et tous ces dirigeants à côté de lui aujourd'hui sont des clones. On les appelle les Jeff Bots, c'est-à-dire les robots Bezos, les robots Jeff. Ils sont comme lui, ils ont le même profil. Et il a mis en place toute une philosophie d'entreprise, 14 principes qu'il faut respecter, qui sont en fait sa propre mentalité, quoi.
Vous l'avez déjà rencontré, Jeff Bezos ?
Je lui ai couru après, c'est le début de mon livre, je vais pas tout raconter, mais je l'ai vu. Après, il est très dur à atteindre aujourd'hui, parce que il s'intéresse pas, il parle plus aux médias en fait hein, aujourd'hui. Donc non, je l'ai pas rencontré.
Vincent Maillet, vous l'avez rencontré vous ?
Non, j'ai pas rencontré. Non. Pareil.
Sa peur profonde à Jeff Bezos, lui qui est devenu l'homme le plus riche du monde, c'est la chute.
Oui.
Il est obsédé par ça.
En tout cas, il en parle et il l'occulte absolument pas. Il dit que les entreprises ont une durée de vie de 30 ans en moyenne et que ça pourrait très bien être le cas pour Amazon. Amazon a 25 ans aujourd'hui. Je les vois pas s'arrêter dans 5 ans. Mais il parle de ça sans aucun problème. Je pense que sa peur profonde, ce serait que les clients se détournent d'Amazon. C'est en fait ça, sa peur viscérale, c'est de ne plus être le meilleur, de ne plus bien faire, que son entreprise, pour une raison ou pour une autre, devienne mal aimée des clients. Je pense que ça doit être ça, sa vraie peur viscérale.
Et d'ailleurs, le premier commandement, hein, il y a 14 commandements que vous décrivez dans votre livre, c'est l'obsession du client. C'est une obsession maladive chez Jeff Bezos. Et c'est pas forcément par amour du client.
C'est
paradoxal, mais
c'est évidemment par intérêt économique. Mais alors, ça peut paraître un peu bateau de dire ça. Toute entreprise doit normalement mettre son client au cœur de son business, évidemment. Mais en fait, peu d'entreprises le font. Sa particularité, c'est qu'ils le font vraiment chez Amazon. Ils pensent tout le temps à ce que le client et son colis à l'heure, quels que soient les moyens que ça prend, et évidemment le réseau de livraison qu'il a fallu mettre en place. Ils remboursent les yeux fermés à n'importe quelle réclamation, etc. Ils font en sorte qu'il n'y ait même pas de service client et qu'on n'ait pas à appeler de hotline. Ils ont investi beaucoup là-dedans. Ils perdent aussi beaucoup d'argent à cause de ça. Mais c'est pour prendre le terrain, pour prendre le marché, et qu'après les gens ne se posent même plus la question est-ce que je dois acheter sur Amazon ou ailleurs, que les gens qui sont abonnés aillent directement sur Amazon les yeux fermés. C'est ça le but.
Vincent Maillet, cette obsession du client a contaminé l'ensemble du secteur.
Oui, alors on peut dire que l'obsession des clients, c'est un peu la base quand vous êtes commerçant. Enfin, je veux dire, c'est normal. Il y a juste que Jeff Bezos a une façon de faire son métier qui est un peu différente des autres, c'est-à-dire qu'il cherche pas à discuter avec le consommateur, c'est-à-dire à faire des études. Il le dit d'ailleurs, ça sert à rien d'interroger le consommateur sur ce qu'il pourrait vouloir dans 2-3 ans. Lui, il part du principe que on a envie de rester chez soi, que les courses c'est pas forcément un moment de plaisir. Donc il met tout un process en fait en musique pour justement livrer les clients et leur apporter un standard de qualité absolument le plus parfait possible.
Et c'est Amazon hein, qui invente les micro-critiques, hein, les notes sur un produit allant d'une à 5 étoiles.
Voilà,
c'est eux qui inventent ça.
Ils ont inventé beaucoup de choses qu'on voit partout sur le web.
Par exemple,
et notamment les notes. Les notes, c'est intéressant parce que des éditeurs, par exemple, de livres lui ont dit au début, mais pourquoi vous allez laisser les gens mettre des notes négatives sur des articles que vous voulez vendre ? Il faut être positif. Mais Jeff Bezos a dit, mais nous, ce qu'on peut faire, c'est aider le client à faire des choix. Donc, il a finalement fait cette chose un peu paradoxale qu'on retrouve partout aujourd'hui.
Vincent Maillet, c'était peut-être contre-intuitif, cette notation ?
Alors, bien sûr, ça paraît contre-intuitif, mais en fait, là où c'est extrêmement intelligent, c'est que du coup, il n'a pas besoin de mettre de conseiller en face des clients. C'est-à-dire qu'il part du principe que les clients vont se conseiller entre eux et que l'avis consommateur peut finalement avoir une valeur bien supérieure à l'avis d'un conseiller.
Et pour vous, Benoît Berthelot, on n'en est qu'au début hein, de cette quête effrénée pour tenter, voire devancer les besoins du client roi.
Effectivement, puisque Amazon, en connaissant les achats de ses clients, a accès en fait à vraiment la vérité de ce qu'ils font avec leur argent, de leur porte-monnaie. C'est-à-dire que Google et Facebook, ils savent ce qu'on recherche, ce qu'on regarde, ce qu'on poste, l'image qu'on veut avoir de soi-même. Mais Amazon a vraiment accès à notre portefeuille et à ce lien à nos comptes bancaires qui est direct. Et ils ont racheté des Deliveroo pour nous livrer des repas le soir. Et ils veulent se mettre dans l'assurance, dans la banque, dans la santé, livrer des médicaments. Donc cette connaissance du client via ces data va permettre à Amazon d'être être demain, si les plans vont bien, l'hyper-entreprise qui nous vend tout.
Alors ils ont mis en place, je ne sais pas s'ils l'ont inventé, mais ils ont mis en place un bouton assez redoutable, le bouton où l'on peut acheter en un seul clic et l'objet du désir est commandé, payé et presque aussitôt expédié.
Oui, j'ai rencontré l'inventeur de ce brevet, Perry Hartman, je l'ai vu à Seattle, c'est lui qui a inventé ce brevet, et ça part d'une discussion avec Jeff Bezos, qui lui a dit « le moment du paiement, c'est vraiment un moment où le client doit se sentir en confiance, et il doit acheter sans plus de se poser de questions, c'est vraiment le cerveau reptilien là, du consommateur auquel on fait appel, et donc c'était la commande en un clic, c'est Amazon aussi qui l'a inventé, c'est-à-dire que l'adresse du client, la carte bancaire sont enregistrées, ils ont mis un brevet sur ça, qui a duré pendant 20 ans, qui s'est seulement périmé là en 2017.
Il est redoutable ce bouton, Vincent Maillet.
Il est redoutable, mais il faut savoir une chose, c'est que en gros, Jeff Bezos a prophétisé et surtout a écrit un truc très intéressant, c'est que de la prise de commande, c'est-à-dire du moment où, que ce soit sur votre mobile ou sur votre ordinateur ou même maintenant Alexa, parce qu'Alexa en fait permet aujourd'hui d'acheter.
L'assistant vocal.
Donc en fait, de la prise de commande à la livraison, il achète, il développe, il crée toutes les technologies qui permettent d'aller le plus vite possible, le plus facilement possible.
Et d'ailleurs, Amazon veut façonner notre avenir en proposant des magasins sans caisse. Ça existe déjà, il y en a un aux États-Unis, c'est ça ?
Il y en a une quinzaine déjà.
Exactement.
C'est arrivé en France ou pas ?
Non, pas
encore. Ça va arriver ?
Non, ils parlent d'en ouvrir un à Londres, qui est pas encore ouvert pour l'instant, mais c'est le seul qui est prévu sur l'Europe pour l'instant.
Ils avaient pour projet d'en ouvrir 3000 d'ici à 2021, ils sont très en retard sur leur plan pour l'instant. Le premier, ils ne l'ouvriront pas à Paris, je pense, plutôt évidemment à Londres ou en Allemagne, où les gens sont encore plus Amazon addicts que chez nous. Mais effectivement, c'est des magasins sans caisse, où le client a juste à scanner son mobile à l'entrée, il est suivi dans tout le magasin par des caméras, par des systèmes de reconnaissance faciale. On sait ce qu'il prend dans chaque étagère, il y a des mini pesées électroniques dans chaque étagère pour voir quel produit il prend, et il a juste à sortir du magasin sans payer, c'est un peu magique.
Voilà. Une question qui revient énormément dans tous les mails que nous recevons, Amazon détruit-il plus d'emplois qu'il n'en crée, ou est-ce l'inverse? Et que nous dirait Schumpeter et sa célèbre destruction créatrice sur ce point? C'est une question qui revient énormément ce matin.
Destruction il y a, création d'emplois il y a aussi. Amazon a par exemple bientôt 9300 salariés en France. Évidemment, la question qui se pose, c'est combien d'emplois sont détruits directement par Amazon. On sait que Auchan licencie, Carrefour aussi. Les destructions d'emplois, elles sont massives. Aux États-Unis, il y a eu des plans sociaux absolument colossaux. Donc, suivant les études, évidemment, c'est des querelles d'économistes. Il y en a qui disent qu'il y a deux fois plus d'emplois détruits que d'emplois créés. Et puis aussi, il faut voir qu'on est juste au début du e-commerce. Et un salarié d'Amazon en France, il rapporte 900 000 euros à Amazon. Un salarié de Carrefour, il rapporte 300 000 euros, trois fois moins. C'est le calcul que j'ai fait. Donc, on voit vite qu'ils sont plus productifs et qu'effectivement, Amazon tourne avec beaucoup moins de gens que les entreprises du commerce traditionnel.
Vous êtes d'accord, Vincent Maillet ?
Quelle est la destruction d'emplois, c'est clair. Après, quel est le rythme de développement et la croissance d'Amazon ? Est-ce que ça permet d'intégrer toutes les personnes qui perdent leur emploi ? Je ne sais pas. L'avenir le dira. Ce qui est clair, en tout cas, c'est qu'au-delà d'Amazon, quand vous regardez ce qui se passe en Chine avec Alibaba notamment, on voit bien qu'il y a un mouvement, ou Uber, hein, tout simplement, on voit bien qu'il y a un mouvement assez énorme d'automatisation de la livraison, et du coup, tout ce qui est paiement en caisse, magasin, mise en place des produits dans les rayons, etc., tous ces métiers-là sont quand même très fortement menacés.
Tiens, à propos d'Alibaba, fondé par Jack Ma, c'est un site, un géant chinois, pourquoi ça n'existe pas en Europe, en France?
Si, ça existe.
Alors, sur Alibaba, ça commence à arriver,
c'est AliExpress, vous pouvez charger l'application aujourd'hui, qui s'appelle AliExpress, qui est une des applications les plus chargées aujourd'hui en Europe.
Et en France ?
En France, bien sûr, ouais. Avec des velléités très fortes à se développer, notamment sur l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la Russie, où ils sont déjà très fortement implantés. Donc, il y a une espèce de raz-de-marée au travers de la route de la soie qui est arrivée. Ouais, on va dire qu'on les voit arriver depuis quasiment deux ans.
Oui, c'est ça. Oui.
C'est très récent.
Avec une accélération récente.
On va dire qu'ils sont plutôt spécialisés dans des produits à très bas prix de très mauvaise qualité, donc ce qui freine un peu leur pouvoir aujourd'hui. Ils ont ouvert un entrepôt à Liège, donc tout près de la France, qui permet maintenant de raccourcir les délais de livraison, parce qu'avant c'était 20 jours minimum, ça venait de Chine, etc. Donc quand même, ils posent leur pion, et c'est sûr qu'ils sont une menace pour Amazon sur certains types de produits déjà.
Dans quelques instants, on s'intéresse aux assistants vocaux susceptibles de nous écouter à notre insu, je pense évidemment à Alexa. En attendant, on écoute de notre plein gré Julia Foy, c'est pas son genre.
Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Un garçon ou une fille?
Il y a une femme là-dessous.
Non.
Alors, qu'est-ce que c'est?
C'est un homme.
T'as dit à tout le monde que t'étais un garçon?
T'as menti?
Bah oui. Mais moi j'ai des poils qui me poussent sous le maquillage et j'ai un câble droit de fille, voilà.
Julia Foyce, alors toutes les semaines, vous venez nous parler de ce qui fait l'actualité au féminin, au masculin et plus et affinité. Vous avez décidé cette semaine de nous parler d'intimité féminine. Vous avez vu comme je prends des gants. Mm-hmm. Et ce matin, votre chronique pourrait s'intituler « Le mot et la chose ».
Et voulant éviter à vos lèvres ourlées de s'y brûler, je vais le prononcer moi-même. 3, 2, 1, vagin, comme dans cette Bible du vagin. Écrite par une gynécologue américaine et censurée tout récemment par les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram ont interdit toute publicité pour l'ouvrage, arguant du fait qu'il usait d'un langage inapproprié. Alors, de vous à moi, c'est pas Bible qui a choqué encore que ça pourrait, vu que Marie-Madeleine, c'était quand même une sacrée cochonne. Mais non, évidemment, c'est le vagin qui a coincé, façon de parler. Par exemple, si on avait écrit une Bible du coude, bon, là, ça passait, ce qui est quand même un tout petit peu dommage quand on sait à quoi ça sert un coude. À rien, hein. À part essayer de voir si on arrive à se le lécher, alors qu'en vrai, on peut pas, on le sait. Le vagin, lui, entre l'orgasme et la maternité, en termes d'intérêt, on est pas mal quand même. Alors, peut-être qu'il aurait fallu lui trouver un synonyme pour échapper à la ceinture, hein, ok? Dictionnaire des synonymes en ligne, entrer le mot vagin, patienter, ça tourne, résultat, 20. Oui, 20. V-A-I-N, pas de synonyme. À la rigueur, sur certaines pages, un petit sexe par-ci, une petite vulve par-là. Mais c'est tout. Alors que verge, oh la verge, qui est aussi le pénis, qui est aussi le membre viril, la baguette, la houssine, la broche, la quéquette, et j'en passe. Là, oui, avec la verge, on a de quoi faire, hein. Je me comprends. Disons plutôt qu'avec le vagin, on a quand même un petit problème. D'ailleurs, sondage BBC, Ali, 66% des Britanniques n'osent jamais prononcer le mot lui-même.
Et c'est sans doute autant le mot que la chose qui pose problème.
Ah bah oui, clairement, quand on voit tout ce qu'on lui fait subir. L'anamphoplastie, ça vous parle ? C'est joli,
un
hein,
petit peu.
Dit comme ça. Sauf qu'en fait, c'est pas joli du tout. On incise, on entaille, on rabote, en un mot, on réduit la taille des petites lèvres, réduisant du même coup une jolie source de plaisir. Ouais, c'est plein de terminaisons nerveuses, hein, ces petites bêtes. N'empêche que la nymphoplastie a le vent en poupe, plus 40% sur l'année 2015 dans le monde, par exemple, et en France. C'est même devenu une spécialité à part pour les chirurgiens esthétiques. Tu fais quoi dans la vie? Je suis réducteur de lèvres, et toi? Remarquez, ils sont pas les seuls à se faire des ovaires en or, hein. Les esthéticiennes pratiquant le maillot intégral aussi. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à vouloir un pubis totalement épilé, jusqu'à 54% pour les moins de 25 ans, par exemple. Selon un dernier sondage IFOP, quant à celles qui veulent du Botox.
Du Botox.
Oui, c'est la dernière technique à la mode dans les salons de beauté vulvaire. Alors je vous jure, Ali, que je n'invente rien de vous. Moi, je préférais, mais la beauté vulvaire est un vrai marché aux États-Unis, jusqu'en Inde d'ailleurs. On vous la gonfle, on vous la blanchit, on vous la raffermit et vous en ressortez avec toute une série de produits cosmétiques pour l'hydrater, la gommer, l'exfolier. Et enfin, votre vagin aura de l'attrait. C'est un slogan pondu par l'un des poids lourds du secteur. Secteur que, de vous à moi, on appelle aussi parfois le marketing de la honte. Ouais, parce que si on regarde les sous-titres, ça veut quand même dire « Au naturel, ton vagin, franchement, cache-le, il craint ».
Mais d'où vient cette tendance du là ?
Ali, je dirais que comme Gustave Courbet était à l'origine du monde, le vagin se retrouve au carrefour de la plupart de nos obsessions contemporaines. Le jeunisme, et hop, je te fais un lifting, et hop, je te fais remonter les petites lèvres. L'hygiénisme, et dégagez-moi toutes ces aspérités, les poils, on veut du lisse, de l'aseptisé. Une forme d'exhibitionnisme aussi, où on montre tout ou plus rien n'est intime. Or, à partir du moment où l'on montre, on norme, on voit donc pas trop pourquoi les injonctions esthétiques auxquelles on est tous soumis s'arrêteraient au-dessus de la ceinture. Ce d'autant plus qu'avec le porno en ADSL, ça vous fait du vagin à portée de clic. Ouais, bien sûr, la consommation de vidéos X induit des canons esthétiques, aussi bien pour les hommes qu'on voudrait en bandaison permanente que pour les femmes que l'on veut glabres, roses, grandes lèvres bombées, petites lèvres rentrées. Sauf que, comme toujours, le porno, il a bon dos.
Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Bah, que c'est le bouc émissaire parfait, celui sur lequel tout le monde s'accorde pour trouver une origine à tous nos comportements plus ou moins déviants. Or, je vais vous lire un extrait des recommandations 2008 du Collège National des obstétriciens et gynécologues de France, attrapé par hasard sur Twitter. Allez, je lis. Force est de constater que parfois, la nature s'est montrée ingrate. Le blason de la féminité est raté, voire hideux. Les petites lèvres ou nymphes, au lieu d'être contenues dans la fente vulvaire, émergent de cette dernière et font protrusion de façon disgracieuse en peloton, en jabot, syndrome du dindon, en oreille d'épagneul. Ça va les gars, si vous nous lâchiez un peu la grappe parfois ?
Julia Foyce, pas son genre. Et je viens de vérifier sur l'appli Robert Mobile, il n'y a pas de synonyme à vagin.
Voilà.
Effectivement,
vous avez... Donc vous ne me croyez pas.
Si je vous croyais, voilà. Mais je voulais vérifier.
Et voilà. Bah ouais, il n'y a pas.
On peut retrouver votre chronique en vidéo.
Et mon vagin dans mon pantalon.
J'ai pas dit ça. Je l'ai pensé, mais je l'ai pas dit. Et demain, dans Passons
Genre... moi pour la faire.
Et demain, dans Passons Genre l'émission, à 20h.
Oui, à 20h, on va parler PMA, mais alors... Truc incroyable, c'est les femmes elles-mêmes qui ont fait des PMA qui vont en parler. Truc de dingue.
Merci Julia Foyce. Comment Amazon, dans un tout autre genre, transforme notre vie quotidienne ? 01 45 24 7000.
hear me understand. Oh.
Black Pumas interprété Fire.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Pourquoi tu viens Fire, qu'est-ce qui se passe?
Rien du tout.
Pourquoi vous me faites rire comme ça? C'est pas possible.
Parce que vous m'aimez, je crois, vous êtes un petit peu
10h44, comment Amazon a transformé notre vie quotidienne? C'est notre thème ce matin. Avez-vous peur d'Amazon? Un peu, beaucoup, pas du tout. 0145 24 7000. Bonjour Véronique, pardonnez-moi, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour. Alors, dites-nous un petit peu votre point de vue sur Amazon. Je crois savoir que vous n'avez jamais rien acheté sur Amazon.
Non, pas tout à fait. J'ai acheté une fois sur Amazon, il y a très longtemps. Mm-hmm. Et depuis, par principe, je n'achète pas.
Pourquoi ?
Je n'achète plus.
Expliquez-nous.
Par rapport au modèle Amazon, en fait, c'est quelqu'un qui, ne paie pas d'impôts ici. Fait en sorte que leurs salariés sont plutôt maltraités, leurs producteurs sont payés à minima, par principe, j'achète pas, même si des fois ça pourrait être plus cher. Quoi qu'en général, quand je regarde les sites, quand je fais une recherche, que je trouve un site sur leur marketplace, il y a le même site qui vend en direct, au même prix, souvent. Donc je vois pas l'intérêt d'aller chez Amazon. Par ailleurs, au niveau du cloud, il y a des clouds européens, voire français, et je dirais même, il y en a un à Roubaix où j'habite, qui est dans les premiers mondiaux, donc je vois pas pourquoi on se sert d'Amazon, quoi, et surtout lui se sert de nous.
Bonjour Patrick, vous allez dans le même sens que Véronique, c'est ça?
Oh que oui, quand j'entends Amazon, j'ai les poils qui se dressent sur les bras. Parce que je trouve que c'est un non-sens individuel. Un de vos invités avouait qu'il avait commandé même des croquettes pour chien sur Amazon. Et vous imaginez quand vous cliquez sur cet accord-là, la somme d'énergie qui est dépensée pour livrer les croquettes sur le paillasson de l'appartement de ce monsieur. C'est impressionnant. C'est un non-sens existentiel.
Voilà. Merci beaucoup Patrick. En tout cas, vous allez dans le même sens que la quasi-totalité des mails que nous recevons et des messages sur notre page Facebook. Merci Véronique et Patrick d'être intervenus. Vous comprenez ces réactions épidermiques contre Amazon, Vincent Maillet, vous qui publiez Amazon main basse sur le futur?
Ah oui, je comprends bien sûr, mais c'est évident. On est quand même en plus dans une entreprise qui est aujourd'hui leader de sa catégorie, donc elle porte en elle tout ce qu'on peut reprocher aux évolutions du e-commerce aujourd'hui. C'est assez logique.
Benoît Berthelot, vous qui publiez Le Monde selon Amazon.
Oui, je les comprends très bien aussi. Effectivement, c'est tout le modèle en fait de société derrière Amazon qu'il faut prendre en compte dans son ensemble, depuis les livreurs dont parlait monsieur, qui sont évidemment des emplois précaires, jusqu'aux entrepôts, en passant par les fournisseurs. Il faut savoir que 30% des fournisseurs sont chinois sur Amazon. Donc on nous vend les PME françaises qui vendent sur Amazon, mais c'est pas ça la majorité des vendeurs aujourd'hui. Donc effectivement, c'est tout le modèle dans son ensemble qui pose question. Oui.
Alors Amazon emploie 650 000 personnes partout dans le monde, essentiellement dans ses entrepôts, des entrepôts standardisés, robotisés, ultra productivistes. Quelles sont les conditions de travail et quelle est la différence d'organisation par rapport, par exemple, à Cdiscount, Fnac.com? Expliquez-nous un petit peu la spécificité d'Amazon.
Alors j'ai visité les deux. Ce qui est très différent, c'est que chez Amazon, les produits dans les étagères sont classés d'une manière totalement totalement aléatoire. C'est très, très spécial et spécifique.
Pourquoi?
Amazon. Parce qu'en fait, ça permet de gagner du temps. Quand ils mettent les produits dans les étagères, ils vont au premier endroit où il y a de la place et ils vont pas plus loin. Mais du coup, les salariés qui marchent dans les allées jusqu'à 15 km par jour pour récupérer les articles dans les étagères, et ils ne vont pas à un endroit qu'ils connaissent, ils suivent un GPS qui leur dit étagère E, allée C... et voilà, ils ont des chiffres dans la tête toute la journée, ils doivent juste suivre ce GPS. Donc en fait, ils sont pilotés par ordinateur. Ils ont un GPS qui traque leur performance. Évidemment, ils ont des avertissements s'ils ne vont pas assez vite et ils peuvent se faire licencier pour ça, les moins productifs d'entre eux. Donc c'est pas vrai de la même manière chez Cdiscount où vous avez un endroit, tous les Playmobil, toutes les PlayStation, tous les livres, etc. Où c'est une sorte d'environnement un peu plus humain. Et ensuite, Amazon veut aller beaucoup plus vite que les autres. Donc il y a une fréquence. Évidemment effréné. Dès qu'un article est commandé sur le site, quelqu'un court pour aller le chercher, même s'il ne devrait pas courir. Si les objectifs sont de courir, il le fera.
Vous êtes procuré un rapport confidentiel de 2017. Que dit-il sur la sécurité des salariés de l'entrepôt de Montélimar dans la Drôme?
Oui, c'est un rapport qui a été fait sur demande du CHSCT d'Amazon. Il rassemble 256 témoignages d'employés. Donc c'est une étude la plus large que j'ai trouvée qui puisse être faite sur un entrepôt. Il a été demandé par la CARSAT de la Drôme parce qu'il y avait tellement d'accidents du travail qu'ils ont doublé les cotisations d'Amazon.
La CARSAT, c'est la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
Voilà. Donc, il ressort de ce rapport que 74% des salariés ont des douleurs physiques liées à leur travail. Il y a jusqu'à 8,9% d'absence des salariés dus à leur travail. Donc, c'est un travail physique très intense. C'est vrai partout dans la logistique, mais c'est vrai en particulier chez Amazon pour toutes les raisons que j'ai énoncées.
Il y a plus de turnover qu'ailleurs chez Amazon, Vincent Maillet ?
Alors ça, je sais pas. J'ai pas les chiffres. Je pense que de toute façon, le métier de logisticien est un métier extrêmement dur, où justement le sujet c'est de sortir le colis le plus rapidement possible. Donc tout est fait pour aller vite. Hein. Heureusement ou malheureusement, c'est assez terrible, mais c'est comme ça.
Et d'ailleurs, l'obsession pour les sites marchands et pour Amazon, c'est l'obsession du dernier kilomètre de livraison. Benoît Berthelot, vous avez suivi Lassana, 26 ans, qui travaille pour un sous-traitant de Chronopost. Amazon qui cherche à raccourcir à tout prix ses délais.
Oui.
C'est ça le dernier kilomètre. Hein.
Le dernier kilomètre, c'est le plus coûteux, le plus difficile, puisqu'il faut aller jusqu'au pas de la porte chez les gens. Et ce qui est particulier à ce secteur, c'est qu'on ne commande pas tous les jours le même volume de colis. Évidemment, à Noël, il y en a beaucoup plus, deux fois, trois fois, quatre fois plus. Les lundis, par exemple, il y a énormément de livraisons parce que les gens commandent le dimanche soir, c'est le pic. Ça fait que tout ce secteur est organisé en pyramide de sous-traitants. Qui sont ce jour-là commandés pour venir travailler et le lendemain non. Donc c'est évidemment des emplois très précaires, très temporaires. Il y a du travail au noir, il y a des cadences là aussi effrénées, des accidents de la route. Ça devient d'ailleurs un sujet de société aux États-Unis, les accidents de la route dus aux livreurs Amazon. Donc effectivement, sur le dernier kilomètre, Amazon repose sur des sous-traitants, la Poste y compris, hein, qui en profite, mais met en place aussi son réseau parallèle qui va de plus en plus supplanter la Poste.
Et puis un client qui ne reçoit pas sa commande à temps, c'est un client potentiellement furieux, et ça, Jeff Bezos n'aime pas du tout ça. La bataille de l'alimentaire, faut en parler quand même quelques secondes, la bataille du frais en particulier.
Oui.
Hein, parce que Amazon vend déjà des croquettes, hein, des biscuits,
du sec,
du sec, mais la vraie bataille à l'avenir, c'est le frais, hein.
Oui, parce que c'est une poche de consommation énorme, évidemment. C'est de l'argent qu'on dépense tous les jours. Il faut se nourrir en permanence. Et donc, Amazon ne peut que s'y intéresser. Ils ont essayé de lancer Amazon Fresh aux États-Unis, qui est leur propre site de livraison, leur service de livraison.
Et ça n'a pas marché.
Ça marche pas si bien. C'est très, très dur d'être rentable sur ce marché-là. Donc, finalement, ils ont racheté Whole Foods, qui est une chaîne de supermarchés bio aux États-Unis. Ils ont 600 magasins.
Au Canada et au Royaume-Uni.
Voilà. Ils ont 600 magasins. On pense qu'ils vont les brancher sur leur système de logistique. Donc, quelque part, pour réussir à percer dans ce modèle-là, c'est possible qu'il retourne vers le commerce traditionnel et les magasins.
Vincent Maillet, quel est l'avenir pour s'imposer dans l'alimentaire frais chez Amazon ?
Il faut savoir une chose, c'est que le frais est super important pour un distributeur, parce que le frais, c'est la fréquence de visite dans un magasin, par exemple, et c'est de la fréquence d'achat. Donc, quand vous maîtrisez le frais, quand vous avez beaucoup de clients qui achètent du frais régulièrement chez vous, vous pouvez vendre d'autres produits, notamment le non-alimentaire. C'était un peu le succès des hypermarchés en France, par exemple, qui faisaient venir pour le frais, et puis arrivaient à vendre des des produits non alimentaires comme des vélos, etc., des ordinateurs. Donc le frais est super important et Jeff Bezos dit en gros, on sera un grand distributeur quand on sera très fort sur le frais et très fort sur l'habillement. Donc c'est deux sujets sur lesquels il travaille très fort pour gagner des clients.
Et le plan de bataille pour s'imposer dans l'alimentaire frais, c'est de racheter Monoprix par exemple.
Évidemment, il y a des spéculations sur le sujet puisqu'ils ont un partenariat maintenant national avec Monoprix. Les produits de Monoprix du groupe Casino sont disponibles pour le service de livraison express Amazon.
On retrouve aussi les produits de chez Naturalia.
Voilà, qui est le même groupe. Hein,
De Bio C'est Bon.
Voilà, aussi, ça c'est un groupe différent. Ouais. Naturalia c'est tout récent et c'est aussi...
Naturalia c'est récent, mais Bio C'est Bon c'est un peu plus ancien.
Donc Casino étant un distributeur un peu pâle en point, il y a beaucoup de spéculations. Carrefour va peut-être les racheter, peut-être ce sera Amazon. c'est une bataille qui va se...
Alors jusqu'à présent, la bataille du point de vente, elle a plutôt eu lieu en Inde notamment, puisque...
Expliquez-nous.
Expliquez-nous. En Inde, en fait, Jeff Bezos a racheté un prix des parts dans, il a racheté une entreprise qui s'appelle Future Retail, qui a à peu près 2000 points de vente en Inde, donc c'est assez colossal. Bon, il a pas racheté, il a pris des positions dans cette entreprise, donc c'est assez énorme. L'Inde va être un pays assez important, parce que Alibaba a des velléités de s'installer en Inde, et puis Walmart aussi a acheté un pure player, en Inde, et donc, une espèce de bataille, étant donné la croissance qu'il y a dans le pays, assez énorme entre ces trois géants.
C'est quoi un pure player?
Un pure player, c'est un e-commerçant en fait, hein, donc c'est un spécialiste du e-commerce et de la vente de produits sur Internet. Ce qui est en train de se passer en France, moi je sais pas dire si Amazon va prendre des positions et va acheter des points de vente ou va acheter un distributeur en France ou en Europe. Ce qui est clair, c'est que dans la bataille que se livrent aujourd'hui Alibaba et Amazon, Alibaba vient d'ouvrir un magasin en Espagne, à Madrid, le premier magasin d'Alibaba en Espagne. Donc je serais pas étonné qu'à terme il y ait une bataille aussi sur l'Europe.
Alexa, allume la lumière.
D'accord.
Lorsque vous l'interpellez, l'assistant virtuel d'Amazon répond à presque toutes vos demandes. Mais derrière l'appareil, il se peut qu'un humain écoute lui aussi vos conversations. Selon plusieurs témoignages recueillis par Bloomberg, des dérives ont pourtant déjà été constatées à cause de ces écoutes. Des conversations sensibles à caractère sexuel sont déjà remontées aux oreilles d'Amazon par ce biais. Ses principaux concurrents sur ce marché, Apple ou Google, procéderait au même type d'écoute. L'utilisateur doit donc rester vigilant.
Les enceintes connectées, par défaut, en fait, ne se réveillent que quand on entend un mot-clé particulier. Et même la plupart ont un bouton sur lequel vous pouvez appuyer pour la couper de manière définitive.
Ce n'est pas la première fois qu'Alexa se trouve au cœur d'une controverse. En mars 2018, les conversations d'un couple américain ont été enregistrées à leur insu avant d'être envoyées à une tierce personne. Amazon avait alors évoqué un bug rarissime.
Extrait d'un reportage de BFM TV en avril dernier, sans tomber dans la paranoïa complotiste, est-ce que les employés d'Amazon peuvent écouter Alexa branchée chez nous?
Ils le font.
Pourquoi ils le font?
Certains ont témoigné à Seattle. Ils m'ont dit qu'effectivement c'était le cas. Ils disent que les extraits sont anonymisés, mais enfin ça reste vos conversations dans leur contexte, etc. Ils le font parce qu'en fait les intelligences artificielles ne sont pas si intelligentes que ça, et il faut sans arrêt les peaufiner, voir si elles ont bien entendu ce qui a été dit. Donc en fait à chaque fois qu'il y a un bug, ou en tout cas sur beaucoup de cas, quand Alexa n'a pas compris ce qu'a dit la personne, eh bien c'est un humain qui va écouter ce qui a été dit, voilà, et qui retranscrit ce qui a été dit.
Vincent Maillet, vous utilisez cet assistant vocal?
Oui, j'utilise, bien sûr, obligé, donc de voir un peu comment ça
obligé,
fonctionne.
Obligé, moi, j'ai pas.
Il faut tester, il faut regarder, c'est toujours pareil. Hein. Après, c'est difficile de parler d'un sujet sans essayer de voir et de comprendre comment ça fonctionne. Mais oui, alors moi, je l'ai mis à la maison, ce qui est assez surprenant.
Mais j'ai vraiment pas envie. Mais que ce soit l'assistant vocal de Google ou d'Amazon, j'ai pas, ça m'attire pas.
Alors le phénomène est assez marrant parce que moi, à la maison, j'avais quelques réticences. Voilà, notamment mon épouse. Et en fait, c'est assez marrant comme assez rapidement, vous avez l'impression finalement d'avoir une présence chez vous. Donc, effectivement, ça paraît un peu intrusif, mais donc, elle a un prénom. Donc, vous appelez Alexa, met un compte à rebours pour les œufs durs, etc., etc. Donc, vous parlez finalement à une personne.
Julia Foy, petite réflexion.
Non. Moi, ce qui me fait marrer, mais j'avais fait une chronique là-dessus chez Fabienne l'année dernière, c'est que...
Fabienne Santès,
c'est que tous ces assistants, par défaut, sont des assistants portent des prénoms de filles, parce qu'il faut croire que, nous, on sait assister, hein, on a ça dans les jeunes, alors que les voix par défaut des GPS, c'est des voix de garçons.
Dernière question, dans 10 ans, ça ressemblera à quoi Amazon, en quelques mots, Benoît Berthelot?
Déjà, ils ont mis en place la livraison par drone, qui est, j'ai tout un chapitre dans le livre là-dessus, j'ai visité leur site de R&D à Cambridge.
Vous y croyez à ça?
Moi, j'y crois moyennement. Je pense que c'est bien pour des zones pavillonnaires. C'est les seuls endroits où ils pourront y arriver. Mais je sais pas s'ils pourront le faire partout, notamment en ville. Il va y avoir des restrictions quand même de survol. Ça fait beaucoup de bruit, surtout les drones. Mais en tout cas, il y aura ça et il y aura des entrepôts automatisés et une entreprise qui aura pris des parts encore plus importantes, je pense, dans beaucoup de domaines.
Vincent Maillet.
Donc il y a deux sujets. Moi je crois que malheureusement c'est le sens de l'histoire. Enfin malheureusement ou heureusement j'en sais rien, mais clairement en disant on va avoir une livraison par drone, et c'est déjà le cas par exemple en Australie où Google a mis en place un système où déjà Google livre des clients via des drones. Ça c'est un premier point. Moi ce qui m'inquiète plus en fait, on parlait d'Alexa, c'est l'intelligence artificielle et la gestion des data. C'est-à-dire que on se rend pas compte aujourd'hui à quel point l'Europe et la France est totalement démunie en face de deux géants que sont les États-Unis et la Chine sur la gestion des data.
On refera une émission sur le sujet. Je vous cite Benoît Berthelot. Demain, un algorithme prédictif analysera mon historique de consommation avec mes données personnelles, avec un but, me livrer sans délai tous les produits perçus comme nécessaires à mon existence. Merci beaucoup Benoît Berthelot. Je recommande votre enquête Le Monde selon Amazon au Cherche Midi. Merci Vincent Maillet. Amazon main basse sur le futur vient de paraître chez Robert Laffont. Demain, nous recevons le philosophe Pascal Bruckner et le médecin Vincent Valenduc pour esquisser une philosophie de la longévité. Toutes vos questions sur la longévité au 01 45 24 7000. Il est dès maintenant sur l'appli le site de France Inter. À la technique ce matin, Elisabeth Collet et Clément Berman.